Laurence Noël est sociologue de l'ULB, collaboratrice scientifique au groupe de recherche sur l'action publique, le GRAP, et enfin, elle est collaboratrice scientifique à l'Observatoire de la santé et du social au sein de la Commission communautaire commune, la COCOM, de la région de Bruxelles-Capitale. Laurence Noël est en charge de la publication des rapports bruxellois sur l'état de la pauvreté, le non-recours aux droits sociaux et la sous-protection sociale. Vous êtes dans le petit studio radio des ateliers de journalisme de l'École universitaire de journalisme de Bruxelles.
Bonjour à tous, bonjour à vous les auditeurs de Radio Campus. C'est un honneur pour moi de passer une heure avec vous ici, à l'ULB, dans mon alma mater, mon université. Merci à Philippe Delchambre pour l'invitation. Alors aujourd'hui, la conférence va porter sur les réalités du non-recours aux droits sociaux. Le non-recours aux droits sociaux, c'est quelque chose de très universel qui touche un peu tout le monde, mais qui a un impact très différent, un degré d'urgence très différent selon la classe sociale qui est touchée. Comme la pandémie qui nous touche actuellement, l'impact est beaucoup plus important sur les personnes en précarité. Donc on va vraiment rentrer aujourd'hui dans les réalités très concrètes d'une enquête que nous avons menée à l'Observatoire de la santé du social entre 2015 et 2016. Donc juste un peu pour dire dans quel cadre je parle. L'Observatoire de la santé et du social, c'est le service d'études de la COCOM dans la région qui s'occupe de la santé et de l'aide aux personnes. Et qui a dans ses missions d'élaborer tous les deux ans un rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté. C'était le premier service en fait qui a collecté des données sur la pauvreté en région bruxelloise. Et on publie ce rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté, qui est ce que les législateurs ont voulu, une forme de dispositifs scientifiques, mais de services publics, pour un peu inciter l'action publique, les parlementaires, en publiant chaque année des chiffres actualisés, en publiant une étude assez complète tous les deux ans, en essayant d'inciter les pouvoirs publics à agir, à prendre de nouvelles ordonnances, à améliorer l'action publique régionale pour lutter et réduire contre les inégalités sociales. Donc, on présente ce rapport tous les deux ans au Parlement bruxellois. Et parfois, certaines recommandations parlementaires en sont issues ou certains changements de loi suivent cette présentation. Alors, si vous avez une question, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez toujours m'écrire à lnoel@ccc.brussels et taper sur Internet « Aperçu du non-recours aux droits sociaux et de la sous-protection sociale en région bruxelloise ». Vous arriverez tout de suite sur le rapport que vous pouvez télécharger en ligne. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on a mené cette enquête? Très brièvement, on a fait une revue de la littérature, des entretiens exploratoires, on a fait une demande à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour avoir des données, dont je vais vous parler après. Et alors, j'ai réalisé un grand terrain où j'ai interviewé presque 70 intervenants sociaux, beaucoup d'assistants sociaux, mais pas que, beaucoup d'intervenants des administrations publiques, régionales, fédérales, et aussi presque une trentaine de personnes en situation de non-recours. On a aussi beaucoup collecté des données administratives, donc demandé des données à l'ONEM, à la DG Personnes Handicapées, etc., à plein d'institutions différentes de la Sécurité sociale. Alors, quelle définition et pourquoi le non-recours? Pourquoi le non-recours? Le cabinet de l'aide aux personnes peut nous suggérer certains sujets d'études, ou bien nous proposons des sujets d'études pour ce rapport pauvreté, et on nous a proposé la Sherwoodisation. Nous, on a proposé de centrer plutôt l'étude sur le non-recours au droit, qui a été déjà beaucoup étudié en France, notamment par l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services en France. Vous tapez ODENOR et vous allez dans la bibliographie et vous trouverez des tas de ressources sur des études qui ont déjà eu lieu sur le non-recours au droit, en France et ailleurs. Et donc on a décidé d'approcher la pauvreté par le non-recours aux droits et services, comme le propose donc Philippe Varin, qui est un chercheur, un politologue français, qui a déjà énormément travaillé sur cette question en France. Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle du non-recours aux droits sociaux? Eh bien, la définition, on a repris la définition de Philippe Varin, qui est que le non-recours renvoie à toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique de droits et de services à laquelle elle peut prétendre. C'est-à-dire, quelqu'un a droit à un droit ou à un service, mais il n'en bénéficie pas. Donc, si on va plus loin dans cette définition du non-recours, il s'agit en fait de toute non-réalisation d'une offre publique, soit de droits, soit de services. Alors, il y a des estimations chiffrées, mais elles sont très, très compliquées. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais estimer le non-recours, c'est très compliqué parce que autant on sait souvent le nombre de personnes qui bénéficient d'un droit, mais autant il est très difficile d'estimer pour une période donnée, si vous prenez le mois de juin aujourd'hui, combien de personnes sont vraiment éligibles, par exemple, au chômage temporaire ou au revenu d'intégration. Donc, c'est compliqué de calculer des taux de non-recours. C'est toujours des estimations très compliquées. Mais il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années, en 2011, qui estime que pour le revenu d'intégration en Belgique, 60% des personnes éligibles, donc qui auraient droit à ce revenu d'intégration, qui est le revenu minimal pour les personnes qui n'ont pas droit au chômage ou à d'autres droits, qui est un revenu minimal de survie, 60% des personnes éligibles qui auraient droit sont en situation de non-recours. Donc c'est quand même assez important et les études en France ou dans d'autres pays vont quand même dans le sens de proportions très importantes de personnes qui seraient éligibles mais qui ne recourent pas à leurs droits. Donc on a étudié ce phénomène et structuré notre étude, notre rapport en 4 grandes parties. Donc je vais structurer la conférence aujourd'hui en 4 grandes parties, suivre un peu la structure du rapport. Donc d'abord on va partir dans les situations très concrètes et individuelles de non-recours, puis après on va regarder le non-recours par rapport à des droits sociaux fondamentaux et voir quel type de situation de non-recours sont les plus fréquents pour certains droits sociaux fondamentaux. Puis, on partira par une analyse des parcours des personnes précarisées qu'on a rencontrées. Et enfin, on terminera sur des conclusions, des enjeux aujourd'hui très importants liés au non-recours aux droits sociaux, notamment à l'automatisation des transferts de données, etc., à l'automatisation des droits sociaux. Donc pour les situations individuelles de non-recours, vraiment très concrètement, si on part des personnes, on est parti d'une typologie explicative qui avait déjà été construite par Philippe Varin, dont je viens de vous parler, et qui lui dit que quelqu'un ne bénéficie pas de ses droits auxquels il pourrait prétendre. Pourquoi ? Parce que soit il ne les connaît pas, la non-connaissance, soit il ne demande pas ses droits, la non-demande, soit il n'y accède pas, le non-accès aux droits, soit les pouvoirs publics ne lui proposent pas ses droits. Donc ça, c'est vraiment la typologie de Philippe Varin, stricto sensu de non-recours. Et nous avons ajouté un cas de figure à cette typologie, qui est l'exclusion des droits, parce qu'on voulait un peu tester dans quelle mesure il était possible de trouver du non-recours dans cette forme-là d'exclusion des droits. Et donc, on a présenté sous forme de tableau cette typologie aux gens, à tout le monde, les intervenants, les personnes en précarité. Et on a dit, voilà, par rapport à vous, à votre parcours, etc., est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations ? Et si oui, par rapport à quoi, à quel droit ? Alors, par rapport à la non-connaissance des droits, ce qu'on peut dire très globalement, c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, c'est que clairement, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits et que c'est souvent lié à l'information et au manque de connaissances, mais surtout au manque de compréhension. Et donc, les gens peuvent être confrontés à un problème de compréhension des courriers qu'ils reçoivent, des formulaires à remplir, des procédures à faire, c'est de plus en plus complexe. Et que l'information, c'est vraiment ce que disent les personnes. Ils sont ballottés entre un trop-plein d'informations sur leurs droits, donc ils reçoivent toutes les informations et puis ils sont un peu perdus, ou un manque d'informations où ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Les gens ont aussi souligné à quel point les informations ne sont pas valides et souvent contradictoires. Donc, d'un guichet à l'autre, ils vont recevoir des informations contradictoires ou bien ils vont parfois recevoir des informations erronées s'ils se présentent dans un service social ou autre. Ce qui pose le plus de problèmes aux personnes en précarité, c'est aussi la réalisation des démarches dans les procédures de plus en plus complexes qu'ils doivent réaliser. Donc aller à la commune, recevoir une attestation de son propriétaire ou de l'ONEM, etc. C'est ça qui va poser problème. Mais souvent, quand on veut résoudre le non-recours, on dit « Ah, mais on va distribuer de l'info, on va faire des petits folders d'informations, on va distribuer, etc. » aux gens. Mais on voit souvent que la distribution d'informations ne suffit pas et que c'est vraiment la compréhension des démarches, le fait de réaliser les démarches qui va compter dans l'effectivité des droits. Et c'est l'accompagnement qui est indispensable de la part des services sociaux. avec le vrai problème de la réorientation, puisque beaucoup de gens maintenant, quand ils fréquentent un service, sont souvent réorientés vers d'autres services, et c'est ça qui va souvent créer du non-recours au départ. Alors, situation suivante de non-recours, bien concrète au niveau des individus, c'est la non-demande. Le fait de ne pas demander ses droits, c'est très fréquent aussi. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas demander les droits, qui ne retourneront jamais au CPS ou qui n'iront jamais à l'ONEM ou qui n'iront jamais à la DG handicapée parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce statut, dans cette identité assignée. Ils ne veulent pas être associés aux représentations négatives, souvent associées à ces statuts, ou bien c'est une histoire personnelle, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus, ils n'iront jamais au CPS. J'ai aussi beaucoup entendu dans les enquêtes. D'autres ne peuvent pas. Ils disent non, je ne demande pas parce que c'est trop compliqué. Je suis en situation de handicap physique ou je suis malade et ça me coûte trop. Je préfère pas demander. C'est vraiment donc les représentations sociales de soi et les représentations sociales de l'institution qui sont mises en jeu et mises à l'épreuve dans la non-demande. Mais ça reste très fréquent pour le CPS, par exemple, ou pour le handicap, etc., où des gens ne veulent pas demander. Alors, on remarque aussi, depuis les enquêtes, les interviews qu'on a faites, que la non-demande peut être momentanée. Les gens se permettent pendant un temps de ne pas demander leurs droits. Et puis, parfois, ils n'ont plus le choix. Par manque de revenus, ils sont acculés. Ils doivent demander leurs droits. Ils vont finalement les demander. Ou définitif, donc il y a des gens qui vivent dans une très, très grande précarité et qui préfèrent dépendre de l'informel ou vivre dans l'informalité la plus totale parce qu'ils sont très souvent dégoûtés des institutions ou du service auquel ils devraient s'adresser. Alors on remarque aussi que ce cas-là, la non-demande, concerne beaucoup plus souvent des personnes qui ont atteint un seuil de démarche accompli, qui ont tellement été baladées d'un service à un autre ou qui se sont senties humiliées, qui sont en colère, qui sont en refus total d'un lien avec une institution ou un droit en particulier ou un service en particulier. Et donc ça, c'est souvent lié à un seuil de démarche accompli. C'est quelqu'un qui aura déjà beaucoup fréquenté des services sociaux ou des administrations publiques et qui en a ras-le-bol et qui ne veut plus s'y adresser. Alors le cas suivant, c'est le non-accès aux droits. Et ça, c'est vraiment le cas le plus fréquent qu'on a rencontré parmi nos répondants en situation de non-recours. Et du point de vue des professionnels aussi, c'est le circuit infini, les justifications, le déplacement d'un service à un autre, le fait qu'il faut vraiment coordonner son dossier aujourd'hui pour pouvoir rendre son droit effectif. Il faut vraiment des compétences de coordination entre services. Ce qui va faire que la personne aussi ne va pas accéder à ses droits, c'est par exemple des faits anodins. Avoir mal rempli un formulaire, attendre l'assistante sociale tel jour, telle heure... Et en fait, elle dit qu'elle est venue, et en fait, elle n'est pas venue, on n'a pas entendu le coup de sonnette, etc. C'est la conflictualité dans le rapport de la relation administrative entre l'usager et l'intervenant de service public ou de service social. C'est la temporalité des procédures, évidemment, qui va faire que la personne ne va pas avoir accès. C'est obtenir un premier rendez-vous, faire les démarches, et puis pour que le dossier soit complet, puis introduire le dossier, et puis le dossier est introduit, et puis il faut encore avoir une réponse positive, négative, c'est très long. Les institutions aussi, le temps des institutions avec des longues files, des guichets très peu accessibles, et donc ça va complexifier l'accès. Les conditions de plus en plus restrictives, donc la nature des conditions a changé, on demande toute une série de conditions aujourd'hui beaucoup plus nombreuses, et la personne souvent doit prouver chaque année, reprouver chaque année ou tous les trois mois qu'elle a toujours droit à la carte médicale, le statut de malade chronique, à son droit au revenu d'intégration ou autre. C'est souvent aussi des facteurs administratifs internes. Le lieu est peu accessible, les modalités de communication, c'est accessible que par Internet ou par écrit, que pendant la permanence. C'est, disent les gens aussi, le non-suivi du dossier, qui disent « moi, mon dossier est complet, mais j'ai pas de nouvelles, il n'y a pas de suivi, j'ai pas de réponse, j'arrive pas à avoir une réponse ». C'est l'inaction de la part des intervenants, parfois, disent les usagers. Et le fait que les gens n'ont pas le courage aussi de recourir, par exemple, au tribunal du travail. Donc, parfois, les gens ont fait tout comme il fallait. Ils sont éligibles aux droits. Mais après, quand la décision est négative et que ce n'est pas juste et qu'ils devraient faire un recours au tribunal du travail, les gens se découragent. Et très, très souvent, c'est des gens précarisés qui n'ont pas le courage d'encore faire plein de démarches pour accéder à un avocat prodéo et faire un recours au tribunal du travail. Ils se découragent, ils laissent tomber. Il y a aussi les facteurs administratifs externes de liens entre les communes, la région, le fédéral, les mutualités, les syndicats, tous ces acteurs, les employeurs, les secrétariats sociaux qui vont parfois, il va y avoir un petit problème entre ces institutions et c'est ça qui va faire que la personne ne va pas accéder à ses droits. Et aussi, enfin, mais très important, les discriminations multiples dont les gens font l'objet. Ils disent bien que, suivant... leur statut social, le fait qu'ils ne parlent pas bien français, leur couleur de peau aussi, leur origine étrangère, ils disent qu'ils sont traités différemment et que c'est pour ça que c'est ça qui explique aussi leur non-accès aux droits. Alors, la non-proposition des droits, c'est le quatrième cas qui avait été proposé par Philippe Varin dans la définition du non-recours aux droits. Mais la non-proposition des droits, c'est un peu tabou pour les intervenants sociaux. C'est rare qu'ils m'indiquent qu'ils ne proposaient pas les droits. Mais les usagers en ont quand même un peu parlé et c'est évidemment fruit de la non-connaissance des personnes, mais soit des personnes elles-mêmes qui ne sont pas au courant qu'elles y auraient droit, évidemment, soit des intervenants eux-mêmes qui ne proposent pas parce qu'ils ne savent pas non plus. Donc c'est très lié là, à la non-connaissance, hein, mais voilà, quand même, ils ne proposent pas le droit de manière consciente, inconsciente, plus ou moins inconsciente. C'est les facteurs relationnels dans le cadre asymétrique, ça peut arriver. Ben, le pouvoir de l'intervenant des services publics ou de l'assistant social est de plus en plus fort. Et il se peut que dans un cadre très conflictuel, un assistant social ne veuille pas proposer un service supplémentaire, un droit complémentaire à un usager qu'il n'aime pas forcément ou qui trouve qu'il ne mérite pas tel droit ou tel service. C'est lié très fort, beaucoup plus à des facteurs institutionnels où les intervenants des services publics ou sociaux rencontrés disent ben voilà, moi je suis en surcharge, j'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ou d'activer tous les droits de la personne, c'est impossible, j'ai 120 dossiers à gérer et voilà. Ou bien j'ai reçu des consignes, on doit être en équilibre budgétaire, on a des quotas à respecter, c'est juste impossible de remplir ces conditions, enfin en tout cas d'activer les droits de toutes les personnes. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui se brise du point de vue de l'usager quand il se rend compte qu'on ne lui a pas proposé le droit. C'est que dans le rôle attendu des pouvoirs publics, des services sociaux, il y a une rupture de confiance par rapport aux services publics. Et donc, on est parfois dans des trajectoires aussi qui mènent vers la non-demande de droit puisque les gens n'ont plus confiance et ne veulent plus avoir de lien avec les services publics. Ou leurs droits. Alors, dans le cas de l'exclusion des droits, là, on n'est pas à proprement parler dans du non-recours. Le non-recours, c'est une personne qui est éligible et qui ne bénéficie pas de son droit. Et donc, si la loi change et que, par exemple, on exclut les jeunes du bénéfice de les allocations d'insertion, c'est tout, ils ne sont plus éligibles et donc on n'est pas dans du non-recours aux droits. Mais dans certains cas, on voit qu'il peut y avoir une forme de non-recours par l'exclusion abusive. Vu qu'il y a de plus en plus de droits sociaux où l'exclusion est prévue, on voit que dans certains cas, il y a une exclusion abusive et donc on trouve que cette catégorie est pertinente pour aussi expliquer le non-recours. Par exemple, quelqu'un qui va se présenter maladroitement au guichet d'un CPAS ou d'une autre institution publique et va expliquer maladroitement sa situation. À l'accueil, on va lui dire non, vous n'avez pas droit, alors que cette personne est tout à fait éligible, ça peut arriver. Et de nouveau, des questions aussi de méconnaissance, d'erreurs, de malentendus dans la relation administrative entre services publics et les personnes, ou services privés associatifs. C'est aussi l'action des intervenants qui ont une attitude défavorable, un non-suivi, et qui va faire qu'en fait, le droit est tellement complexe et l'exclusion est tellement rapide que finalement, la personne va se faire exclure juste parce qu'elle n'aura pas rendu un papier ou qu'elle n'aura pas bien compris une information, etc. Il y a aussi une forme de disproportion et d'exclusion rapide du droit dans la subjectivité et le pouvoir de sanction de plus en plus important des intervenants. Donc aujourd'hui, il y a un pouvoir de sanction possible pour le revenu d'intégration, pour les allocations de chômage, pour toute une série de droits sociaux où on peut exclure la personne de son droit, même pour l'invalidité, etc. Et donc, parfois, des gens sont exclus de manière abusive. Et ce risque est de plus en plus élevé puisque les changements légaux vont plutôt tout de même dans ce sens-là depuis quelques temps, même si depuis la crise du Covid, on voit bien que c'est le contraire et qu'il y a un mouvement inverse et que pour certains droits sociaux, le gouvernement va justement vers une simplification et vers un maintien des droits et au lieu de durcir les conditions, va assouplir les conditions puisque ce serait une vraie catastrophe sociale si les conditions restaient inchangées. On voit aussi que dans certains cas, les personnes ont tellement peur de se faire exclure qu'elles vont s'exclure juste par trop d'informations, elles vont être stressées et terriblement angoissées par ce contexte anxiogène pour maintenir leurs droits. Alors maintenant, on va passer vers la deuxième partie. Donc j'ai décrit très brièvement les situations très concrètes et individuelles de non-recours aux droits. Mais maintenant, on va passer par une autre manière de voir et d'étudier les choses, c'est par le droit lui-même. Donc on étudie toujours à l'Observatoire précarité et pauvreté de manière multidimensionnelle. La précarité, ce n'est pas uniquement un manque de revenus, ça se passe à tous les niveaux, dans tous les domaines fondamentaux de la vie. Donc ça se passe au niveau du logement, de l'éducation, de la formation, au niveau de l'emploi, de la santé, du revenu. Et donc, on a fait une forme de parallèle et on s'est dit qu'on allait aussi étudier le non-recours par rapport à des droits qui touchent à ces droits, à ces domaines de la vie fondamentaux. De toute façon, il y a des droits fondamentaux qui sont garantis dans des textes internationaux. Bah, François Sulkens a parlé à la dernière conférence de la charte économique des droits, de la charte européenne des droits humains. Et donc, ils ne sont pas tous garantis dans ces textes, mais dans le pacte international des droits économiques et sociaux, bien. Et dans la constitution belge, beaucoup de ces droits aussi, dont je vais parler, sont garantis et y figurent. Bien sûr, ils sont traduits après par des droits et des dispositifs très concrets en Belgique. Et donc, on va à chaque fois, pour chaque domaine de la vie, étudier donc droit au logement, droit à éducation, à la formation, droit à l'emploi, droit à la santé, droit à un revenu minimal. Et on va exemplifier du non-recours par rapport à des dispositifs concret et prévu dans la loi. Donc, pour le droit au logement, par exemple, qu'est-ce qui est ressorti de l'enquête ? C'est que, du point de vue donc, des intervenants comme des personnes en situation et du point de vue de notre étude, c'est qu'on voit très bien que le logement, c'est le socle d'accès à tous les droits sociaux. Avoir une résidence et un domicile permet l'ouverture de droits. Et à contrario, la perte du logement, or c'est souvent dans la situation de non-recours, les gens perdent leur logement puisqu'ils n'ont plus de revenus. Perdre son logement entraîne une perte progressive de un et plusieurs droits sociaux. La personne va perdre tous ses droits, y compris son droit à l'assurance obligatoire en soins de santé. Et donc, ce qu'on voit par rapport aux dispositifs régionaux, puisque le logement, c'est une compétence régionale, et au logement au niveau social et privé, très globalement, hein, si je dois résumer très fortement ce qu'il y a dans cette partie du droit au logement, c'est qu'on voit par exemple, et c'était surprenant au niveau bruxellois, c'est que par exemple pour s'inscrire sur les listes de logement social, eh bien, il y a tellement de personnes en liste d'attente que par exemple pour les personnes que nous avons rencontrées, elles ne s'inscrivent même plus. Elles sont éligibles, elles sont très précaires, elles pourraient s'inscrire sur les listes d'attente de logement social, mais elles sont en situation de non-demande, elles ne le demandent même pas, elles ne s'inscrivent même pas, ça ne les intéresse même pas puisque le délai d'attente est tellement long que ne préfèrent pas demander. On voit aussi des situations de non-accès, bien entendu, avec la crise du logement en région bruxelloise, avec des gros problèmes d'accès au logement sur le marché privé et public, le coût du logement qui entraîne des trajectoires où des Bruxellois précarisés doivent sortir de la région pour pouvoir accéder à un logement. On voit des situations d'exclusion, clairement, avec, par exemple, les radiations sur les listes d'attente de logement social. On voit que maintenant, si les gens ne se réinscrivent pas tous les deux ans, il y a eu des changements justement dans la législation. Si elles ne se réinscrivent pas d'elles-mêmes tous les deux ans sur les listes de logement social, elles sont radiées. Et donc là, elles sont exclues justement de ce droit, parfois sans le savoir. Elles sont exclues aussi du droit au logement par la perte de logement. Ça, c'est très fréquent en situation de non-recours. Et aussi par les expulsions locatives, par exemple. Hein, je ne donne que des exemples. Pour illustrer aussi, par exemple, la non-proposition et la non-connaissance de droits liés au droit au logement, eh bien, les dispositifs régionaux d'allocation, loyer, etc., étaient à l'époque de l'enquête tellement complexes que les intervenants sociaux préféraient ne même pas les proposer aux personnes en disant « les conditions sont tellement difficiles à remplir, avec un délai trop court, etc. » le droit a été tellement mal pensé, disaient les intervenants, si on veut, qu'on ne le propose même pas. Ça, c'est pas la peine. C'est trop complexe. Et donc, on a un paradoxe où le logement, c'est le lieu de vie, la base de l'octroi de tous les droits, mais que, paradoxalement, pour les personnes précarisées, l'accès est de plus en plus compliqué, de plus en plus limité, et c'est le premier poste budgétaire de dépenses pour les personnes. Et c'est le premier lieu de contrôle aussi par rapport aux droits sociaux, avec des enquêtes à domicile, etc. Alors, par exemple, maintenant, si on passe à un autre droit qui est le droit à l'éducation, à la formation, pris de manière très globale, et qu'on regarde les dispositifs régionaux uniquement d'aide à la formation et d'offres de formation en région bruxelloise, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le non-recours est très cumulatif. par rapport au droit à l'assurance chômage. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les personnes en formation subissent très souvent un non-accès et une non-proposition de formation. Avec beaucoup d'effets de sélection, les organismes de formation sélectionnent beaucoup les stagiaires et les gens en formation parce qu'ils veulent absolument que les gens aillent jusqu'au bout, puisqu'ils sont aussi jugés sur base de nombre de formations réussies. Et donc, on voit des effets de sélection et des gens qui, pourtant, en région bruxelloise, on sait qu'il y a des besoins de formation énormes et que la région met le paquet pour augmenter l'offre de formation, mais que malgré tout, il y a un non-accès, voire parfois une non-proposition pour certains profils justement plus défavorisés. On voit aussi des risques d'exclusion par rapport au dispositif de formation, parce qu'on voit que, et ça a été très fréquent dans l'enquête, que des jeunes qui sont en formation, mais qui continuent par exemple à bénéficier du chômage ou être rémunérés dans des dispositifs d'aide à l'emploi, vont subir une sanction pendant la formation. Ou par exemple aussi des jeunes qui sont en formation et en revenu d'intégration sociale, ils doivent s'interrompre de leur formation parce que le CPS tout à coup va proposer un article 60 ou parce que Actiris va proposer un emploi, les personnes vont devoir interrompre leur formation. Il y a aussi des situations de non-demande de formation, et ça, ce n'est pas la première fois qu'on l'a vu dans nos enquêtes de terrain. C'est que des personnes refusent maintenant de suivre des formations parce qu'elles ont déjà suivi plusieurs formations et que pour elles, ça n'a pas d'impact et ce n'est pas significatif. Et donc, elles trouvent que ça ne sert à rien. Elles ont fait 1, 2, 3, 4, 5 et que ça ne mène pas à l'emploi. Donc, elles sont découragées et ne veulent plus demander des formations. Donc voilà pour le droit à la formation très très brièvement. Maintenant, si on prend par exemple le domaine de l'emploi et du droit à l'emploi et qu'on étudie uniquement le droit à l'assurance chômage, là on voit vraiment un pic de non-recours très très important, c'est-à-dire que parmi les personnes qu'on a rencontrées pendant l'enquête, l'assurance chômage a été très fréquemment abordée, très fréquemment. En termes d'abord de non-accès pour beaucoup de gens qui n'accèdent plus aux assurances, à l'assurance chômage parce que constituer un droit au chômage aujourd'hui devient de plus en plus compliqué, tellement il faut de conditions, de jours prestés durant une certaine période, etc., en tout cas pour un chômage complet. Je ne parle pas maintenant du chômage temporaire pour raisons économiques et force majeure, puisque la pandémie a fait qu'on a assoupli les conditions d'accès au chômage temporaire, même s'il y a beaucoup de gens qui ne le touchent pas, en fait, qui ont des problèmes et normes administratives pour arriver à parvenir à bénéficier de ce droit. Mais donc, un non-accès. Aussi, des exclusions de plus en plus fréquentes. Les exclusions ont fortement augmenté en région bruxelloise, notamment par des sanctions temporaires ou définitives, avec vraiment des impacts concrets, parce que quand les gens sont sanctionnés de leurs allocations de chômage, très souvent, ils n'ont plus aucun revenu et ils doivent soit aller au CPS, soit ils perdent leur logement, etc. Une non-compréhension, clairement, et une non-connaissance des tenants et des aboutissants pour le maintien du droit au chômage. Donc, par exemple, des gens qui ont leur droit au chômage le perdent très facilement. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent, ils ne comprennent pas bien les missions et les rôles de l'ONEM et d'Actiris, et puis des organismes de paiement que sont la CAPAC ou les syndicats. Donc, les gens, très souvent, là, ça c'est très fréquent, confondent les rôles des uns et des autres, ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire vis-à-vis des uns et des autres, et perdent leur allocation bêtement, entre guillemets, juste à cause d'un manquement, d'un courrier non compris ou d'une démarche qu'ils n'ont pas faite proactivement. Les démarches d'ailleurs d'inscription, de réinscription soi-même, etc., de recherche d'emploi sont parfois abusives vis-à-vis de profils de personnes qui ne peuvent pas remplir ces conditions. Et les attentes de comportement de recherche, les preuves de comportement de recherche, alors que parfois les gens sont vraiment très démunis, sont parfois disproportionnées par rapport à la situation concrète de la personne en précarité. Et donc, pour l'assurance chômage, on voit vraiment que le nombre de sanctions a augmenté en région bruxelloise. On voit aussi, et il faut être attentif en termes de dynamique d'invisibilisation des personnes, on voit que il y a de plus en plus de personnes, par exemple chômeurs, demandeurs d'emploi, inscrits mais non indemnisés. Et on voit qu'en région bruxelloise, la différence entre les demandeurs d'emploi inscrits et les demandeurs d'emploi inscrits et indemnisés, mes collègues font le calcul de la différence entre les deux, et on voit que ça concernerait certainement environ 30 000 personnes pour l'année 2019. Donc il y a beaucoup de gens qui sont finalement inscrits au chômage, mais qui ne touchent absolument aucune allocation. Alors, si on prend maintenant le droit à la santé au sens très large, très global, qu'est-ce qui a été évoqué quand on a parlé de non-recours et de cette typologie, donc avec les personnes et les intervenants ? tout a un peu été évoqué, à la fois l'assurance obligatoire en soins de santé, le droit à l'intervention majorée, qui est le droit d'être mieux remboursé des soins de santé en cas de maladie ou de besoin de médicaments ou de soins, l'assurance maladie-invalidité aussi, pour toutes les personnes qui sont en maladie ou en invalidité, et aussi les dispositifs régionaux du CPS de carte médicale. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans certains cas, y a une non-demande total, par exemple un décrochage total pour certaines personnes sans abri ou autres qui perdent tout, y compris leur assurance obligatoire en soins de santé, donc leur mutuelle, qui ne sont plus assurées du tout et qui doivent alors exclusivement dépendre et faire la demande à des organismes de type humanitaire comme les Médecins du Monde et tous ces acteurs basse-œil qui pallient et répondent aux besoins urgents de soins de ces personnes hyper précarisées. Mais aussi, on le voit par des personnes qui ont un logement, mais qui sont en report total de soins, en report de traitement ou en non-soins, non-traitement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, avec la mutuelle et ses soins de santé, une incertitude par rapport au coût, combien ça va me coûter, des déplacements pour se faire rembourser, il faut toujours aller à la mutuelle, etc. Et dans souvent un état de santé physique et psychique détérioré. On voit qu'il y a aussi une non-proposition de plusieurs droits, puisque par exemple l'intervention majorée, qui ça est un droit très protecteur en termes de soins de santé, qui permet de mieux rembourser les prestations de soins, etc., les mutualités ne le proposent pas forcément. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années pour que les mutualités proposent l'intervention majorée sur base des revenus pour les personnes défavorisées, mais elles ne le font pas forcément. La carte médicale n'est pas toujours proposée par les CPS, et y compris aussi les droits complémentaires pour les mutualités. On voit aussi des cas d'exclusion du droit, donc notamment dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, des personnes qui sont malades ou invalides et qui sont de plus en plus vite et de plus en plus fréquemment évaluées négativement sur base de contrôles de plus en plus fréquents, d'évaluation de cet état de maladie-invalidité de plus en plus fréquent. On voit aussi parfois que pour des histoires de cotisation, de recherche de paiement indu, c'est-à-dire la personne a été trop payée pendant un temps et s'en est pas du tout rendu compte, ou de perte de logement, la personne peut perdre ses droits très, très protecteurs à la santé. On voit aussi parfois un non-accès à ces droits protecteurs de la santé par les délais. Donc, par exemple, il y a des stages d'attente pour avoir droit à une assurance hospitalisation. Il y a des stages parfois très longs, ou des erreurs administratives, ou parfois des modalités, des calculs qui n'ont pas toujours été bien faits et qui vont faire que la personne ne va pas pouvoir accéder à ce droit alors qu'elle y a droit. Donc là aussi, on est dans un paradoxe où une personne malade, souvent donc en précarité, parfois malade, invalide, en attente et en besoin urgent de soins, va paradoxalement subir des coûts financiers, des déplacements, un suivi administratif, va devoir faire des démarches de remboursement pour les droits complémentaires. Voilà, donc c'est effectivement paradoxal et c'est contre-productif. Alors, enfin, pour le dernier domaine de la vie qu'on a étudié, donc le droit au revenu de base, là, ce qui est ressorti, on s'est concentré uniquement sur ce droit-là, c'est le droit à l'aide sociale au sens large, donc ce droit octroyé par les CPS du revenu d'intégration sociale. Donc là, les CPS sont remboursés par le SPP intégration sociale, ou le droit à l'aide sociale, ça, c'est vraiment octroyé par les CPS au niveau communal, régional. Et là, c'est vraiment un droit sous pression. C'était déjà écrit dans le rapport et dans mes présentations avant la pandémie, mais il est clair que depuis l'arrivée de la pandémie, toute une série de nouveaux publics vont devoir faire appel au CPS puisqu'ils perdent la totalité de leurs revenus ou une partie de leurs revenus. Et donc, ce droit qui était déjà sous pression intense avant est encore plus mis sous pression aujourd'hui. Encore plus. Pendant le confinement, c'était très dur puisque les CPS étaient fermés, devaient travailler à distance, etc. Mais donc aujourd'hui, demain et à long terme, les CPS sont vraiment le premier acteur, d'aide sociale et de possibilité d'avoir un revenu pour toutes les personnes qui ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie et du Covid. Et donc ce qu'on voyait déjà avant, mais qui risque de s'amplifier avec cette augmentation du nombre de demandes au CPS, c'est un non-accès à l'aide sociale ou au revenu d'intégration. Pourquoi ? Parce qu'en région bruxelloise, on a 19 communes et donc 19 CPS, et donc 19 styles organisationnels, 19 manières de pouvoir accéder au CPS, avec des horaires différents, des modalités d'accès différentes, 19 manières d'accueillir, 19 organisations différentes, et 19, quelque part, politiques différentes. Il est prévu d'harmoniser ces pratiques, c'est clair, les CPS en sont très très conscients, mais ça reste un problème pour les Bruxellois qui veulent demander une aide ou qui, après un déménagement, ne comprennent pas qu'il n'est pas toujours les mêmes droits d'une commune à l'autre. Il y a clairement aussi une non-demande, donc ça c'est un vrai défi pour les pouvoirs publics, puisque il y a des gens sans revenus qui ont perdu tout leur revenu, et on sait bien, en tout cas c'est le résultat de notre enquête, que beaucoup de personnes restent en situation de non-demande vis-à-vis du revenu d'intégration ou de l'aide sociale. Pourquoi ? Parce qu'ils restent avec une image négative du CPS, de l'assistance, et donc ces représentations, le stigmate qu'ils veulent éviter de bénéficier de l'assistance, va les contraindre à ne jamais demander, va faire en sorte qu'ils ne demanderont jamais, j'entends encore ça souvent dans mes interviews, je n'irai jamais au CPS, c'est encore très fréquent. Et donc là, il y a effectivement un défi, c'est de pouvoir aider ces personnes qui ne demanderont, qui n'y passeront jamais la porte d'un CPS, parce que c'est très dur de passer la porte d'un CPS, mais qui ne demanderont jamais et qui pourtant ont cruellement besoin d'un revenu, une protection de base, et qui risquent de perdre d'autres droits s'ils ne restent pas inscrits dans un système de sécurité sociale. C'est aussi parfois le fruit d'une mauvaise expérience ou d'un choix personnel. La non-connaissance, ça c'est clair que les personnes même bénéficiaires du CPS parfois ne savent pas si elles ont le revenu d'intégration ou l'aide sociale. C'est pas très clair pour elles. Elles n'ont pas une information souvent sur d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre, parce que le CPS a toute une série d'aides très très protectrices et très très diversifiées. Et il y a aussi toute une série de personnes qui disent « Oh, mais moi j'ai déjà le revenu d'intégration, j'ai déjà telle aide et donc ça suffit, j'ose pas demander plus à mon assistante sociale, je n'ose pas. » Il y a beaucoup de gens qui ont très peur, qui n'osent pas demander plus à leur assistante sociale. Il y a aussi une non-proposition, surtout pour l'aide sociale, parce que pour le revenu d'intégration, c'est très clair, les critères sont arrêtés par le pouvoir fédéral et donc il y a une espèce de liste que les assistants sociaux checkent. Et donc, il est facile de vérifier les conditions d'éligibilité. Mais pour l'aide sociale, c'est beaucoup moins clair. Et donc là, chaque CPS agit un peu à sa manière. Et donc, il y a beaucoup d'aides sociales qui ne sont pas toujours proposées aux personnes, y compris notamment pour des raisons budgétaires. Il y a aussi l'exclusion, puisque pendant l'enquête, le projet individualisé d'intégration sociale, le PIS, est désormais une forme de contrat que tous ceux qui touchent le revenu d'intégration doivent signer. Et donc, désormais, tous les bénéficiaires du revenu d'intégration peuvent potentiellement être exclus de ce droit pendant 1 mois à 3 mois. Et donc, on voit que cette exclusion, elle ne touche pas que le revenu d'intégration, qui est vraiment le dernier droit auquel les Belges peuvent prétendre s'ils n'ont plus droit ni au chômage, ni à la maladie, ni à l'invalidité, ni à rien. On voit que ça touche, par exemple, je fais une petite parenthèse, la GRAPA, le garantie de revenus aux personnes âgées. On a vu bien après la sortie du rapport que des nouvelles conditions avaient été votées à la Chambre pour la GRAPA et que les personnes âgées devaient chaque année répondre à un contrôle à domicile de la part du facteur pour bien prouver qu'elles étaient à leur domicile et qu'elles résidaient en Belgique. Et donc, ça a été suspendu pour l'instant en raison du Covid. Et beaucoup d'associations espèrent que cette suspension va être définitive, parce que donc même des personnes âgées très précarisées qui ont qu'un revenu minimal d'environ 1100 euros de la GRAPA peuvent risquer d'être exclues de ce droit parce qu'elles n'entendent pas 3 coups de sonnette du facteur. Donc c'est vraiment, les régimes d'exclusion sont de plus en plus fréquents pour tous les droits, y compris ces derniers droits à un revenu de base pour les personnes les plus précarisées qui n'ont pas d'autres droits et qui dépendent donc de ces régimes-là. Alors, pour clôturer cette partie sur les droits fondamentaux, on voit bien que pour les personnes précarisées, recourir à des droits, c'est indispensable, puisqu'elles ont souvent peu de revenus, et donc elles devraient quelque part, théoriquement, logiquement, recourir à leurs droits, mais que paradoxalement, il y en a beaucoup qui ne demandent pas, et on voit, et vous avez vu, j'espère vous avoir convaincu, qu'en tout cas, ça touche énormément de personnes précarisées, très fortement, et c'est très répandu, et pour plusieurs droits sociaux. Et on voit aussi que ça s'exprime différemment. Selon le droit qu'on étudie, c'est pas le même type de non-recours qui va être le plus fréquent, etc. C'est différent pour chaque service, pour chaque droit, pour chaque prestation. Ce qu'on voit en situation de non-recours, c'est que quand les gens ne bénéficient pas de leurs droits, n'ont plus rien, et que ce sont d'autres acteurs qui répondent à l'aide matérielle, l'aide alimentaire, l'aide administrative, l'aide psychologique, l'aide d'urgence. Et ceux qui assurent cet accès à ces besoins de base, ce sont des associations, des communautés, des réseaux informels, les voisins, la famille, des services caritatifs, humanitaires, religieux, des services citoyens. On voit que, aussi que les personnes qui sont contraintes de dépendre de ces acteurs-là se sentent souvent humiliées et ont de la colère, de la honte, se dévalorisent. Et donc on voit qu'il y a un vrai problème dans cette dépendance contrainte et que ça touche très fortement la relation administrative, donc entre le citoyen et l'état de droit, les pouvoirs publics. On voit aussi clairement, depuis cette étude, et c'est un des apports de cette recherche qu'on a faite dans la région, que finalement, les explications orthodoxes du non-recours, donc il y a plein de manières d'étudier ce phénomène, mais donc il y a toutes les théories orthodoxes qui disent oui, le non-recours, ça s'explique parce que les gens calculent leur coût-bénéfice, ils voient qu'ils n'en bénéficient pas, que ce n'est pas un gros bénéfice, et donc voilà, c'est l'approche coût-bénéfice. On voit que ça ne tient absolument pas, et qu'on ne peut pas reporter l'explication du non-recours sur l'individu. Non, là justement, les personnes précarisées sont en besoin de rendre leurs droits effectifs, mais sont fortement touchées par le non-recours, et que c'est beaucoup plus lié à des facteurs administratifs et organisationnels au sein des structures, des institutions, des pouvoirs publics, qu'au niveau des facteurs individuels, même si bien sûr les facteurs individuels ont une part explicative et jouent évidemment dans le non-recours, mais il y a une prégnance de ces facteurs administratifs, structurels, organisationnels dans l'explication. Et donc voilà, on voit que le non-recours touche tous les droits fondamentaux, les dispositifs et les services concrets prévus par la loi en contexte régional et urbain. Et on voit qu'il y a des spécificités pour chaque droit, chaque service, chaque dispositif. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie. Et là, je vais devoir aller très vite mais et juste brosser quelques constats. Mais je vous renvoie au rapport si ça vous intéresse. Il y a 18 grands constats qualitatifs qui ont été faits sur base de l'analyse des parcours des personnes. On a étudié le parcours socio-administratif de ces personnes. Et on voit que les parcours des personnes les plus précarisées, donc bénéficiaires d'allocations de revenus de remplacement ou d'aide sociale, sont beaucoup plus impactés par les institutions que d'autres. Ils doivent signer des contrats, suivre des parcours prédéfinis, standardisés, et que finalement les institutions vont structurer leur parcours administratif tout comme leur parcours de vie. On voit aussi que dans l'explication du non-recours, les modalités organisationnelles jouent beaucoup. Ce qui joue comme frein d'accès, c'est par exemple la réduction des plages d'ouverture des guichets, la réduction des guichets, les accès uniquement par téléphone, les accès par Internet, le devoir d'avoir un dossier en ligne, etc. Ce sont aussi les processus de rebureaucratisation à travers, finalement, beaucoup de politiques ciblées qui nécessitent beaucoup d'encodage, beaucoup de traitements informatisés, beaucoup de procédures. Il y a aussi toute une pression, des tensions entre administrations, entre services, entre niveaux de pouvoir. Aussi entre administrations qui vont demander toujours des preuves, notamment par exemple le CPS qui est le droit résiduaire, le dernier droit, qui va toujours demander à la personne bénéficiaire, citoyen, d'amener les preuves qu'il n'a pas droit au chômage, les preuves qu'il n'a pas droit à autre chose. C'est l'allongement des délais aussi dans les décisions, etc. C'est l'allongement des délais entre la demande d'un droit et la décision. Beaucoup de gens, parfois, n'ont même pas de réponse dans les délais légaux qui sont prévus. Des réorientations permanentes, où les gens sont réorientés non-stop, et où finalement, il y a une dilution des responsabilités, et plus personne n'est responsable de la personne, quoi. Et donc, on voit aussi un devoir d'action de coordination, parce qu'il y a tellement de réglementations et de normes différentes en Belgique, dans des niveaux de pouvoir très différents, tellement d'intervenants et de services différents dans la région, qu'il y a un besoin absolu de coordination renforcée entre ces différents niveaux de pouvoir. On voit aussi une reconfiguration très forte de la sécurité sociale, avec des tendances à la contractualisation pour tous les droits, les gens doivent signer des contrats, à la conditionnalisation, les conditions que je vous disais qui sont de plus en plus fréquentes, etc. La complexification des législations, où les intervenants eux-mêmes ne comprennent même plus, des spécialistes ne comprennent même plus les codes et ce qu'ils doivent faire, et ce qui est compatible ou pas. Et aussi des dispositifs d'activation qui vont faire que parfois, les gens en s'activant, en acceptant une formation, en acceptant un emploi, paradoxalement, vont perdre certains droits protecteurs par ailleurs ensuite, quand ils devront changer de statut. Et donc, ces dynamiques de complexification, contractualisation, responsabilisation des personnes, activation, vont être aussi à l'origine d'une augmentation du non-recours au droit. On voit dans les parcours socio-administratifs des personnes, ils sont intimement liés au parcours de vie des personnes. La vie, la mort, la naissance, le travail vont structurer les parcours socio-administratifs des personnes. Mais ce qu'on voit et qu'on a vu dans l'enquête de très important, c'est les changements de statut. Donc les changements de statut des personnes qui arrivent avec les risques sociaux, perdre son emploi, tomber malade, les événements familiaux comme se séparer, se marier, devenir parent, les transitions, donc le fait d'arriver dans la vie active ou d'être à la pension, ou les normes d'activation, le fait de, donc comme je vous le disais, d'accepter un emploi, d'accepter une formation, vont être précarisants. Tout changement de statut pour les personnes en précarité vont être précarisants. Et on va voir que des gens en précarité vont rester de plus en plus longtemps entre deux statuts. Leur situation va changer et ils vont rester de plus en plus longtemps entre deux positions. Pourquoi ? Parce qu'aussi, on a vu, et ça on l'avait déjà vu dans une enquête qu'on avait faite sur la précarité des femmes, que les personnes en précarité passent souvent d'une situation précaire à une autre. C'est-à-dire qu'elles ont un emploi temps plein, mais un emploi précaire, mal payé. Et puis elles vont passer par le chômage, puis retrouver un emploi, puis repasser par le chômage, et puis perdre le chômage et devoir demander au CPS, et puis avoir droit à un article 60, et puis passer au chômage, et puis repasser. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'espace de précarité, où les gens se meuvent d'une position précaire à une autre sans avoir l'impression de pouvoir en sortir. Et on voit que les personnes en précarité changent de plus en plus souvent de statut. On voit aussi clairement, au niveau des parcours socio-administratifs, qu'il y a des différences de traitement entre les personnes, des effets de sélection de plus en plus fréquents et des effets de discrimination, comme je vous le disais déjà tout à l'heure. Donc on a fait une analyse qualitative globale, mais aussi quantitative. Et alors, le résultat de cette analyse quantitative, c'est qu'elle est venue confirmer nos constats qualitatifs. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes en précarité ont des parcours de plus en plus instables. Et que cet espace de précarité dont je viens de vous parler est renforcé. Parce qu'il change de plus en plus souvent de situation. Et on voit que ces personnes, en changeant de situation, comme je vous le disais, restent souvent entre deux. Et ce qui le montre, c'est notamment dans les données administratives, le SPP Intégration Sociale a étudié tous les nouveaux bénéficiaires du CPS, du revenu d'intégration, pour 10 années en Belgique. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en étudiant sur 10 années en Belgique entre 2004 et fin 2013, c'est que presque 50% des nouveaux bénéficiaires du RIS, quel était leur statut juste un mois avant ? Eh bien, pour quasi 50%, c'était des autres situations. Des personnes qui n'étaient nulle part, qui n'étaient présentes ni sur le marché du travail, ni dans un système de protection sociale. Des personnes sans ressources suite à un changement de situation personnelle, séparation, départ du domicile, des jeunes sans droits à l'allocation familiale, etc. On a vu aussi que pendant cette période de 10 années, presque un cinquième, donc 18%, venait du travail, donc avait un emploi juste avant. Ça veut dire, ça prouve, enfin, ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est que d'avoir finalement le droit au chômage aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, et que c'est des gens qui travaillaient qui doivent demander le CPS et le revenu d'intégration, c'était leur statut juste avant d'être bénéficiaire. Ce qu'on a vu aussi par une demande qu'on a faite à la Banque Carrefour en étudiant les données juste des Bruxellois, bénéficiaires du revenu d'intégration. Ce qu'on voit, c'est que, y compris quand on est bénéficiaire du revenu d'intégration pendant 2 ans, on a étudié ça entre fin 2010 et fin 2011, puisqu'on n'a pas pu avoir accès à des données plus récentes, on voit que 6 sur 10 changent de statut au bout des 2 ans. Donc les gens qui croient que les gens restent au CPS de manière stable, c'est faux, c'est tout à fait faux. Les gens changent très souvent de statut, et que parmi ceux qui changent de statut, on voit au bout de 2 ans que 15% de ces personnes sont en situation tout à fait inconnue de la sécurité sociale. Et là, on est sûr que c'est des personnes précarisées, puisqu'il y a eu une enquête sociale, puisqu'elles ont été bénéficiaires du revenu d'intégration. Et donc, c'est effectivement très inquiétant, puisque ça montre que, même en étant protégées par le CPS et en bénéficiant d'un revenu d'intégration pendant un temps, on change de statut, et après avoir changé de statut plusieurs fois, au bout de 2 ans, 15% ont quand même une position tout à fait inconnue, sont tout à fait inconnues. On voit aussi, en termes de non-recours, de dynamique d'invisibilisation, etc., et au niveau des parcours des personnes, on voit que quelque chose qui va jouer, ça va être, pour un droit, le nombre de décisions négatives. Et en regardant les évolutions de demandes et de décisions, par exemple, pour les allocations pour personnes handicapées pour la région bruxelloise, on voit que, pour l'année, c'était de l'année 2015, je pense, 3/4 des décisions des nouvelles demandes étaient négatives. Et plus de la moitié des décisions étaient négatives pour l'APA, l'allocation d'aide aux personnes âgées. Et donc, ce qui est très important quand on étudie des droits sociaux, un droit, une prestation, un dispositif, c'est de toujours essayer d'examiner et de demander à l'administration compétente quels sont finalement le nombre de nouvelles demandes. Et parmi ces nouvelles demandes, quels sont le nombre de décisions positives, le nombre de décisions négatives, et alors d'essayer de voir quels sont les motifs de ces décisions négatives. Puisqu'on voit dans, pour certaines allocations, par exemple les allocations pour personnes handicapées, qu'il y a tout un pourcentage quand même important, quasi un tiers, qui a des motifs de refus typiquement liés au non-recours. Donc par exemple, renseignements complémentaires manquent, ou une personne qui, handicapée qui ne s'est pas présentée aux consultations médicales. Donc voilà, ça va être des motifs ou désistements administratifs. Mais juste les motifs qui font qu'un renseignement complémentaire manque ou qu'il n'y a pas de réaction, ben voilà, ça va faire que la personne ne va pas avoir ce droit, bénéficier de ce droit, mais peut-être qu'elle est éligible en fait. Hein. Donc voilà, on voit vraiment un allongement général, un mouvement général de précarisation en fait, où les gens restent de plus en plus longtemps entre deux statuts. Mais qui dit instabilité de statut socio-administratif dit instabilité des revenus. Et donc, cette étude remet les revenus et la pauvreté monétaire finalement au centre des dynamiques de précarisation. On voit clairement aussi en situation de non-recours prolongé une dégradation très forte des situations de vie. Et on voit que le non-recours crée vraiment une invisibilisation des personnes. Les gens n'existent plus nulle part, ni dans les droits donc dans les chiffres des administrations. Donc elles sont nulle part, elles sont ni dans les statistiques du chômage, ni dans les statistiques des CPS, du revenu d'intégration, ni nulle part. Et c'est très préoccupant. On voit que dans cette explication du non-recours, les relations entre institutions, je vous l'ai déjà dit, jouent très fort, les coordinations internes des administrations et externes entre elles. On voit aussi très fort des dynamiques d'évitement et de dépendance entre institutions ou entre niveaux de pouvoir. Donc, par exemple, on voit aussi à la fois les droits qui se conditionnent, mais on voit par exemple l'autorité fédérale, le SPP Intégration Sociale, va durcir ses conditions pour que les CPS soient remboursés. L'INAMI va durcir des conditions pour que les mutualités soient remboursées. L'ONEM va durcir ses conditions pour que les syndicats soient remboursés. Et donc, on voit une forme de durcissement au niveau des autorités fédérales, de remboursement, soit des acteurs de paiement, donc des syndicats, des mutuelles, des acteurs coopérants, soit des CPS. Et donc on voit vraiment une fragilisation de tous ces acteurs intermédiaires qui pourvoient les revenus. Et on voit une fragilisation et donc une conditionnalisation aussi des conditions pour être remboursés par ces organismes. Et donc ça fragilise tout le monde, y compris des institutions au niveau communal et régional, comme par exemple les CPS. Tout ça sous fond de réforme d'État, de transfert de compétences dans un contexte politique assez instable. Ce qui est important aussi à dire pour clôturer cette partie sur l'analyse des parcours des personnes, c'est vraiment d'insister sur le fait que tous les acteurs participent à l'effectivité des droits sociaux. Hein. Ce n'est pas que les pouvoirs publics et les services publics, c'est bien sûr d'abord les pouvoirs publics, les services publics, les institutions publiques de la sécurité sociale, les acteurs coopérants que sont les mutualités, les syndicats et autres. Les pouvoirs locaux aussi, les communes sont très importants. Ils pourvoient des attestations, tout ce qui est composition de ménage, etc. Donc c'est très important que ces communes soient facilement accessibles et que les documents ne soient pas chers et que pour que les gens puissent avoir ces documents pour prouver l'effectivité de leurs droits. Mais aussi les acteurs associatifs et privés qui permettent d'accompagner les gens à rendre leurs droits effectifs. Donc les employeurs qui doivent rendre des attestations, qui ont plein d'obligations pour que les gens puissent toucher le chômage, l'invalidité et autres, les secrétariats sociaux qui ne peuvent pas faire d'erreur, sinon ça peut avoir un impact sur les personnes, et les sous-traitants, puisqu'il y a plein de sociétés maintenant privées parfois qui sous-traitent ces tâches des acteurs dont je viens de vous citer. Mais aussi d'autres acteurs publics comme le SPF Justice, Intérieur, la Banque Carrefour, la Sécurité sociale, etc., qui sont tous des autres acteurs qui vont entrer dans l'effectivité de ces droits sociaux. On voit vraiment un durcissement des droits sociaux fondamentaux et on voit aussi que finalement les acteurs associatifs ont inventé et ont trouvé des réponses pour essayer de pallier à ces gros problèmes. Comment est-ce qu'ils font ? Ils répondent par des pratiques proactives, c'est-à-dire qu'ils accompagnent physiquement les gens au guichet. Et ils disent que ça marche et que ça change tout. Ils accompagnent et ils passent maintenant, parfois pour certains, des mi-temps complets sur Internet pour gérer les dossiers en ligne, etc. Mais ça leur prend beaucoup de temps. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils parviennent à s'occuper de beaucoup moins de gens à cause de ce durcissement et de ces conditions renforcées. Ils disent qu'ils expliquent, ils écrivent des lettres pour les usagers, ils disent... ils expliquent comment pouvoir mieux comprendre les procédures. Ils mobilisent leur réseau institutionnel. Ils passent des coups de fil aux gens qu'ils connaissent dans les institutions fédérales pour essayer d'arranger des dossiers. Ils produisent des actes administratifs de preuves. Ils ne cessent d'écrire des lettres de preuves qui attestent que l'usager a droit à ça, etc. Ils vérifient, ils analysent, ils coachent les personnes. Ils prennent du temps, etc. Par des séries de pratiques proactives. Et donc j'entame maintenant ma quatrième partie. Sur les enjeux et liés au non-recours. Et un des enjeux qu'on n'avait pas prévu dans cette étude et qui a fait l'objet d'un chapitre complet dans le rapport, c'est finalement l'automatisation, pas des droits, parce que souvent, quand on parle de non-recours, les gens disent « Ah, mais oui, il faut automatiser les droits et tout ira bien. » Alors, effectivement, une automatisation complète des droits serait idéale, mais elle est très, très dure à réaliser, puisque, comme je vous le disais au début de la conférence, c'est très dur de savoir qui est éligible à quoi, à quel moment, sous fond de, comme je vous l'ai dit aussi, changement de statut de plus en plus fréquent. Et donc, c'est pas si simple. Mais ce qui est automatisé, c'est les transferts de données, puisque chaque jour, des milliers de données concernant des milliers de Belges transitent d'une instance de la Sécurité sociale à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Et donc, voilà, le gouvernement belge a d'ailleurs reçu des prix de la Sécurité sociale, puisqu'il a mis en place le e-government et a automatisé un maximum de procédures, d'échanges de données, etc., avec une Banque Carrefour qui rassemble des données de tous les organismes publics de la Sécurité sociale, au nom d'une simplification, d'efficacité, etc. Mais attention, ça ne va pas de pair avec une automatisation des droits. Au contraire, puisqu'on voit que finalement, ces échanges de données, parfois, ont induit une dématérialisation très, très grave, en fait, pour les personnes qui a des effets très négatifs et des effets directs sur l'effectivité des droits sociaux. Je vais expliquer ça dans un instant. Et donc, finalement, sous le fond d'objectifs de simplifier, de rendre plus efficace, de rendre plus disponible, de rendre plus rapide, d'anticiper, d'être proactif. Donc, on va voir tous ces discours sur tous les sites web de toutes les instances de la Sécurité sociale. On va voir sur le terrain, paradoxalement, des citoyens, tout comme des intervenants, qui vont dire « Mais non, on a des difficultés très concrètes pour rendre les droits effectifs. Ça ne va pas du tout. Il y a des erreurs. » Et c'est des difficultés concrètes tant pour les citoyens bénéficiaires de droits, ayant droit, que pour les intervenants sociaux qui ont de plus en plus de difficultés aussi avec cette dématérialisation. Donc ce e-government a des limites, il faut en être conscient, et la dématérialisation a un impact énorme. On a sous-estimé dans la décision politique de tout automatiser, de tout mettre en ligne, l'impact politique administratif de tout ça. Parce qu'on a sous-estimé la fracture numérique. En région bruxelloise, c'est entre 12 et 15% de personnes qui n'ont pas accès à une connexion Internet. Et ceux qui ont une connexion Internet, parfois, c'est juste un téléphone pour toute une famille. On a sous-estimé les savoir-faire par rapport à l'utilisation d'un ordinateur, l'utilisation d'interfaces, l'utilisation en ligne, finalement, des sites web qui sont faits et qui ne sont pas toujours faciles et les gestions des dossiers, etc. On a sous-estimé le matériel qu'il faut pour mettre à jour et des imprimantes et des scans, etc., qu'il faut pour remplir les conditions. On a sous-estimé aussi les coûts de la connexion Internet et les usages. Et donc, cette dématérialisation, elle a un impact très fort sur l'accès qui se restreint. Tout ça s'accompagne, ces réformes, de moins en moins de guichets. Tous les guichets disparaissent de plus en plus, que ce soit les guichets de la mutuelle, que ce soit les guichets avant où il y avait des antennes locales, etc. Sauf pour certains, comme le DG Personnes Handicapées, qui au contraire a augmenté les guichets locaux. Mais voilà, l'augmentation des niveaux de guichets parfois. Donc on supprime les guichets de proximité, mais on fait des front desks qui vont augmenter le nombre de niveaux pour pouvoir accès à la personne qui gère le dossier. D'ailleurs, il y a une disparition des responsables du dossier. C'est ça que dénoncent les intervenants sociaux et les personnes. Il n'y a plus personne qui suit mon dossier. Je ne sais pas qui suit mon dossier. Beaucoup d'informations sur le net, incompréhensibles, illisibles pour les personnes. Des lieux de moins en moins accessibles, avec des horaires réduits, etc. Et de plus en plus de conditions. La dématérialisation aussi, elle a des impacts de plus en plus fréquents sur la régularisation administrative, parce que parfois, il y a des blocages, des erreurs, qui, à cause d'une absence de preuve ou d'un non-traitement ou d'une décision ou d'une interprétation erronée, va se passer en chaîne. Donc, par exemple, il va y avoir une suspicion de fraude pour un détail ou un flux informatique qui va venir d'une institution de la sécurité sociale à la Banque Carrefour. Et la Banque Carrefour va enregistrer une information qui va ensuite être peut-être partagée avec une autre ensuite, ou qui va être lié à la personne. Et puis cette information n'est pas juste, où la situation de la personne a changé. Et parfois, ça entraîne des fermetures de droits. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui de rétablir des situations, alors qu'il y a un droit à demander une rectification, etc. Mais les gens ont de plus en plus de mal, puisque la dématérialisation fait qu'ils n'ont plus accès à un guichet humain où expliquer la situation avec un papier. C'est plus possible. Et donc, il n'y a plus aucun accès. Et les gens se sentent complètement dépossédés et ils laissent tomber. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire des recommandations? Là, je vous renvoie au rapport. Il y a eu plein de recommandations formulées par les personnes en précarité, comme par les intervenants sociaux et des administrations publiques. En gros, ils disent, tout le monde dit qu'il faut absolument simplifier, harmoniser les différents régimes, réduire le non-recours et ne pas en faire une variable d'ajustement, être proactif, visibiliser toutes ces personnes qui ne sont invisibles et qui n'ont plus aucun droit, et travailler vraiment l'accueil des personnes et la rapidité dans la possibilité de pouvoir dire à une personne « vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible à tel droit ». Il faut absolument une stratégie pour la sécurité sociale au bénéfice des citoyens et renverser la logique du contrôle, etc. Alors maintenant, avant de conclure, juste vous dire un peu les suites politiques, puisqu'on me dit souvent que je travaille dans une usine à gaz qui ne sert à rien. Il y a eu pas mal d'initiatives suite à cette étude sur le non-recours qui a marqué pas mal de gens. Le Conseil économique et social a fait un avis d'initiative, donc Conseil économique et social régional. Il y a eu un avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées qui m'a auditionnée. Il y a eu plein de questions parlementaires. Il y a eu une mention de dans la déclaration politique générale du gouvernement bruxellois. Il y a eu une ordonnance qui parle du non-recours, etc. Donc il y a eu des suites politiques concrètes. Il y a un projet de plan fédéral, etc., piloté par le SPP Intégration Sociale. Il y a un projet peut-être de plan régional. Mais oui, il y a une mise à l'agenda. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mise à l'agenda, mais une transformation de cette critique, finalement, de ces faits. C'est-à-dire qu'on va prôner un discours de lutte contre le non-recours, on va faire des plans d'action, etc. Mais on va quand même rester dans la continuité de mesures ciblées. Or, on sait bien que les politiques ciblées sur certains groupes augmentent le non-recours. C'est un des apports de la littérature sur le non-recours, c'est de montrer qu'au plus, on fait des politiques pour les groupes cibles et ciblés sur certains groupes, va augmenter le non-recours. Parce que tous les intervenants, les administrations vont devoir créer des nouveaux codes, créer des nouveaux dispositifs, créer des nouvelles manières de s'organiser pour telle politique différente. Et qu'au contraire, il faut revenir à une forme de politique plus universelle, plus ouverte, qui est valable pour tout le monde, et à des régimes valables pour tout le monde. Et donc, c'est une situation schizophrénique. On est toujours, finalement, dans une action d'un... Si on fait des politiques ciblées, on est dans un périmètre de plus en plus étroit de l'intervention publique, et c'est dangereux. Et on a des exemples aussi, où je viens lire le résultat d'une étude en France, qui utilise maintenant le discours du non-recours pour le lier à l'activation et au devoir d'activation. Et en Belgique, on prône aussi le non-recours, mais en continuant sur des dispositifs ciblés. Ça va dans le même sens pour la crise du Covid actuellement, où on voit bien qu'en fait, les personnes les plus impactées par ce Covid, la perte de revenus, etc., c'est des gens qui étaient déjà fragiles ou qui ont tout perdu, enfin, qui étaient déjà en précarité ou qui étaient fragiles et qui ont tout perdu et qui se précarisent. Mais c'est lié à des problèmes structurels, de revenus insuffisants, de précarité de l'emploi, de logement, etc. Mais on reste à des actions ciblées uniquement crise. Ça doit être lié à la crise, etc. On ne peut pas agir sur des choses plus structurelles. Et d'ailleurs... C'est édifiant, mais il y a la task force fédérale, s'appelle la task force fédérale groupe vulnérable. Donc voilà, c'est pour dire que ça reste vraiment dans l'idée d'une politique ciblée, alors qu'on sait que les politiques ciblées augmentent le non-recours au droit. Donc il y a des défis et des nœuds à défaire absolument pour l'avenir. C'est les défis de résoudre la complexité et de pouvoir être capable d'analyser la situation d'une personne à un moment. Et de pouvoir lui dire au moment présent si elle est éligible ou pas. Et que finalement, l'analyse des intervenants soit valide. Et qu'on simplifie absolument toutes les réglementations. Et qu'on permette de coordonner mieux et de centraliser beaucoup plus des informations valides sur les personnes en temps réel. Il y a un défi clairement de qualification des personnes dans leur situation, de traduire une situation humaine réelle de droit en situation juridique et puis en code informatique, puisque tout est informatisé maintenant. Il y a un besoin d'une veille législative sur les changements et les restrictions de droit. Absolument, c'est très très important de savoir quels droits ont changé, quelles sont les conditions qui ont changé, puisque le droit se modifie vite et de plus en plus vite. Il y a un devoir d'équité et d'effectivité des droits, paradoxalement, qui s'oppose à justement cette augmentation des dispositifs ciblés, ça je viens de vous le dire. Et donc, quelles sont les nouvelles politiques ? Il faut toujours bien réfléchir à ne pas exclure davantage en créant toujours des dispositifs ciblés et revenir à quelque chose de très proactif et de beaucoup plus universel. Il y a quelque chose aussi, un nœud dans la réflexivité des pouvoirs publics à pouvoir assumer qu'elles se sont trompées ou qu'elles ne gèrent pas toujours de manière suffisamment simple quelque chose et d'évaluer comment on évalue les personnes. Comment est-ce que l'ONEM, l'Actiris, par exemple, évalue les personnes qui recherchent un emploi? Comment les CPS évaluent les personnes qui sont en contrat-PIS, etc. Donc comment est-ce qu'on évalue les personnes et leur situation? Il faut que les professionnels échangent sur les manières d'évaluer et que ça soit équitable dans leur manière de traiter les personnes. Et enfin, vraiment être très attentif dans l'automatisation des transferts de données. Il faut faire attention à la validité des données et à voir à quoi sert cette automatisation. Est-ce qu'elle sert plus la simplification et la proactivité pour rendre les droits effectifs pour les personnes qui y ont droit, ou est-ce qu'elle sert plus le contrôle et la lutte contre la fraude sociale, puisque là, il y a aussi des dispositifs et des algorithmes qui servent à lutter contre la fraude et qui ne servent qu'à ça. Or, il y a des outils, il y a la charte de l'assuré social, il y a la loi Only Once, donc il y a des outils sur lesquels les pouvoirs publics peuvent s'appuyer pour simplifier et pour revenir à quelque chose de plus universel. Donc j'avoue, pour terminer, qu'il y a un impensé clairement dans cette étude, on me l'a beaucoup reproché, c'est de ne pas avoir justement étudié le non-recours depuis la perspective de genre, etc. Mais que justement, je n'ai pas voulu étudier des groupes spécifiques, puisque, comme je viens de vous le dire, étudier des groupes, ou en tout cas, dans le cadre du non-recours, raisonner par groupe spécifique, ça n'a pas d'intérêt, puisque voilà, ça augmente le non-recours. Mais qu'il est clair que l'intersectionnalité est très importante dans toute étude et dans toutes les études des inégalités sociales. Et il faut toujours voir comment la classe, le genre, et pas la race, parce que la race n'existe pas, mais l'origine ethnique assignée aux personnes, mais aussi l'âge, le handicap, sont en intersection dans les dynamiques d'inégalités sociales et de domination. Et donc, clairement, toutes les populations en pauvreté défavorisée sont beaucoup plus touchées par ce phénomène et les impacts sont beaucoup plus forts. Et donc, voilà, c'est vraiment le risque. Avec la pandémie, il y a un risque de renforcer le non-recours et son impact. Donc, il faut être très attentif sur le long terme, sur l'effectivité des droits et la confiance dans la relation entre le citoyen et l'État dans un cadre démocratique. On sait qu'avec la crise du Covid, on a eu une perte de revenus énorme, des pertes de droits, des risques immenses d'augmentation de non-recours, puisque les gens vont changer de statut. Et donc, voilà, il y a un risque terrible de gens qui deviennent invisibles et qui perdent leurs droits, et de précarisation très forte aussi des régions, et singulièrement d'organismes comme le CPS, dans un contexte politique fédéral tendu. Et donc, je finis par une citation de Nicolas Duvou, qui dit bien que l'une des dimensions les plus saillantes des inégalités contemporaines touche précisément l'individualisation de leur représentation, qui se traduit dans la diffusion de modèles normatifs valorisant la compétition. Et que quatre caractéristiques principales permettent de décrire ces évolutions: le ciblage, l'activation, la décentralisation et la privatisation des politiques sociales. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'ai été trop longue, je m'en excuse à Philippe. Et n'oubliez pas, si vous voulez consulter ce rapport, de taper « Aperçu du non-recours aux droits sociaux et de la sous-protection sociale en région bruxelloise ». Et vous pourrez télécharger le rapport en français ou en néerlandais. Au revoir.
Vous venez d'écouter Laurence Noël, enregistrée le 17 juin 2020, sur le thème du non-recours aux droits sociaux et à la sous-protection sociale.